Boker Tov à tout le monde, Baruch HaShem. Aujourd'hui, on entame déjà le 10e chapitre du Tanya. Et le cours, il est dédicacé par Yaakov Mordechai de Genève. Pour la Hatzlacha et pour tous les Yanim Bezrat HaShem. Comme d'habitude, ces derniers temps, on demande la refoua Shelema à tous les blessés, pour les blessés, aux Chayalim Bezrat HaShem qui soient protégés et les Chatoufim qui puissent revenir très prochainement parmi nous. Bri'im Veshlemim. Alors maintenant qu'on est arrivé au 10e chapitre, je vais faire juste comme ça, on va survoler tchik-tchak ce qu'on a étudié depuis le début. Donc dans le premier chapitre du Tanya, le Admour HaZaken, il nous a posé le Yesod, le fondement de tout le Inyan du Benoni, ce qui s'appelle la Nefesh HaBahamit et la Nefesh HaElokit, qu'on a parlé Baruch HaShem pas mal de fois. Jusqu'à maintenant, on va continuer avec parce que c'est toute la médecine, c'est toute la réalité de notre Avodat Hashem. Donc, le premier chapitre, il vient, il t'annonce à la couleur, Baba, t'es pas seul. Ouais. Comme des fois, on dit à quelqu'un, j'ai l'impression que t'es plusieurs dans ta tête. Ouais, c'est un peu près ça. On n'est pas seul. Le Admour HaZaken, il t'impose de comprendre cette chose-là parce que sans ça, toute ta vie, tu seras dans un matzav où tu n'arrives pas à te reconnaître et tu n'arrives pas à te connaître, Bichlal. Ensuite, du chapitre Bet, jusqu'à E, il va parler de la Nefesh HaElokit, Nefesh HaBahamit, pardon. Ensuite, du chapitre HaElokit, du chapitre Vav Achet, il va parler de la Nefesh HaElokit, l'âme divine. Le chapitre Tête, qu'on a fini la semaine dernière, il va parler des Retsonot, des envies et de tout ce qui va être composé à l'intérieur. Et il va dire à la fin du chapitre Tête, bon, ben, tout ce qu'on vient de dire sur la Nefesh HaElokit, ben, c'est le contraire dans la Nefesh HaBahamit, comme ça. C'est facile à comprendre. Maintenant, dans le Perek Yud, il va continuer à développer le Inyan et il va surtout nous parler du Tzadik pour qu'on commence à comprendre c'est quoi le Inyan du Tzadik. Maintenant, il dit comme ça. « Ve'ine k'she'adam magbir nafsho elokit, ve'nilcham kol kach ima be'imit ad shemegaresh ou meva'er ara sheba michala la smali. » Maintenant, quand un homme va mettre en avant, il va allumer le volume, ouais, il va allumer il va augmenter la lumière, comme on a dit, de son âme divine et il va se battre contre son âme animale, jusqu'au point où il va complètement sortir le mal qui est à l'intérieur de lui. Maintenant, il y a une question qui se pose qui est extraordinaire. Il y a écrit ici « Ve'inek sha'adam magbir nafsho elokit » quand l'homme va augmenter son âme divine. C'est qui l'homme? C'est quoi l'homme? Si jusqu'à présent on te parle que tu es une nefesh abamit ou une nefesh elokit, une âme divine ou une âme animale. Donc quand je te dis maintenant que chez Adam, l'homme, il va… Donc c'est qui? C'est quoi? Oui, mais t'es soit Nefesh Elokit, soit Nefesh HaBahamit.
Les deux, c'est le contrôle.
Mais c'est quoi les deux? Mais non, mais là, tu me dis Adam.
Benoni.
Mais alors, c'est qui le Adam chez toi? C'est ça la question.
Alors,
faut savoir une chose. Et là, c'est un grand chidouche. On arrive au chapitre Yud. Le grand chidouche, c'est qu'on a parlé de deux Nefesh, mais en fait, il y en a trois. Ouais. Comme ça, le combat, il est encore plus intéressant. Alors, c'est qui la Nefesh le Adam? C'est ce qui s'appelle la Nefesh HaSichlit. Ok, la bonne traduction, je sais pas comment vous la donnez.
L'âme intellectuelle.
L'âme intellectuelle. Elle sert à quoi cette âme intellectuelle? Maintenant, le Admour HaZaken, c'est Marianne, parce que dans le Tanya, il ne va pas beaucoup s'attarder sur cette Nefesh-là. Les autres Rebbeim de Chabad, il va avoir aussi des Mahamarim sur la Nefesh HaSichlit. Et en réalité, il va nous expliquer tout simplement. Quand il y a tellement un fossé entre l'âme divine et l'âme animale, qu'on a dit depuis le début, ouais, l'âme animale, elle doit être influencée par l'âme divine parce que l'âme divine, elle n'est pas descendue, elle n'a pas de tikkun à faire sur terre parce qu'elle est déjà parfaite. Elle est venue juste pour parfaire l'âme animale dans ce monde-là. Mais Benein ou entre nous, elles ne peuvent pas se comprendre. C'est impossible. C'est, un, il parle de plaisir spirituel. Un, elle parle de plaisir matériel. Donc, il n'y a pas de discours. Et c'est là qu'arrive la Nefesh HaSichlit. La Nefesh HaSichlit, son makor, elle vient de la Klipat Noga. On avait parlé de la Klipat Noga. Donc la Klipat Noga qui a aussi du bien, qui a aussi du mal. Mais on avait dit aussi que la Nefesh HaBahamit, elle a aussi de Klipat Noga. En fait, la Nefesh HaSichlit, elle est à un niveau au-dessus, à un niveau assez haut dans la Nefesh, dans la Klipat Noga, qui est proche de la Nefesh Elokit, qui est proche donc de l'âme divine. Donc c'est elle qui s'appelle le métaver, l'intermédiaire, entre l'âme divine et l'âme animale. C'est elle qui va venir expliquer les notions à l'âme animale, qui ne comprend pas en réalité pourquoi telle chose devrait m'emmener du plaisir. Vous savez qu'une fois, il y a des étudiants, ils sont rentrés chez le rabbi, ils lui ont posé la question, comment on peut devenir rabbi ? Ouais. Ouais, normalement, tu aurais pensé que le rabbi dit, bah, il faut étudier beaucoup. Ouais. C'est fini le chas, fini le zohar, fini la kabbalah. Et le rabbi, il a dit, la première étape pour devenir un rabbi, il faut arriver à un matzav, une situation où la matière de ce monde, la matérialité de ce monde soit complètement détachée de toi. Quand tu arrives à ça, déjà, tu as passé la première étape pour devenir un rabbi. Et c'est moi de Marianne. Vous savez qu'il y avait une fois, il y avait dans une réunion comme ça à l'époque des chassidim, un juif qui est venu, qui a critiqué les tzadikim. Ça arrive, ouais. Des fois, tu parles de tzadikim et il vient et il balance un dossier. Ouais, il dit, ouais, les tzadikim, ouais, tous ces rabbanim là, ils sont là que pour l'oseille, que pour l'argent. Ouais, il balance. Ah ben, on ne parle pas de charlatan, hein, on parle de vrai tzadikim. Ouais. Ça, c'est pas, sinon on n'a pas de question. Il dit, ils sont là que pour l'argent. Alors le type, il est venu le voir, un des chassidim, il est venu le voir, il dit, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une para, c'est l'histoire d'une vache. Cette vache-là, elle attendait, elle recevait de l'eau spéciale, meyouchad, de son propriétaire. C'était quoi cette eau-là? En fait, son propriétaire, il nettoyait toutes les cuves de tous les animaux, étant donné que dedans il y avait des graines, il y avait à manger, il y avait de la paille, il y avait du foin. Donc ensuite, après qu'il ait tout nettoyé, il mettait dans un seau et il donnait à sa para, il donnait à sa vache de manger. Et elle pensait que c'était meyouchad, c'était spécial. Parce qu'elle faisait deux en un, ouais, Eden Childers. Deux en un, elle avait non seulement de l'eau et en plus de ça, elle avait à manger. Un jour, le propriétaire, il n'a pas fait attention. Toute l'eau, elle s'est écoulée par terre. Donc, il est parti lui chercher de l'eau propre, pure, comme il faut. Et là, la vache, elle boit. Et elle a les boules. Elle dit, attends, je ne comprends pas. Je sais maintenant pourquoi il m'a fait ça. Il est jaloux. Ouais. Il est jaloux. Il m'a enlevé le manger parce qu'il est jaloux que je profite et que je kiffe. Le type, il ne comprend pas le machal et le nimchal. Il ne comprend pas c'est quoi la métaphore. Il dit, quel rapport avec ce que je t'ai dit? Il lui dit, regarde. Étant donné que toi, dans ta notion, dans ta vie, ouais, la notion de ta vie, c'est l'argent, tu n'arrives pas à comprendre que chez un autre, l'argent le dégoûte. Ouais. Pour toi, c'est toi qui es une vache, tu manges, tu bois tous les résidus. Pour toi, c'est ça le monde, c'est ça le plaisir du monde. Donc, tu n'arrives pas à te dire que pour quelqu'un d'autre, c'est répugnant ce que tu es en train de boire, ce que tu es en train de manger. Tu es tellement chakwa bifnim que tu n'arrives plus à voir le Emmet. C'est comme ça qu'il lui a répondu. Mais c'est moi de manière, parce que vous avez, à l'époque des chassidim, vous avez raconté, vous avez parlé beaucoup de Rav Munkes. Ken. Rav Munkes, il avait un ami qui s'appelait Rav Pinchas Reizes. Reizes, ouais. Maintenant, Rav Pinchas Reizes, Baruch Hashem, il faisait partie des nobles. Il était très, 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 très riche. Et Rav Munkes, on l'a vu dans plusieurs histoires, c'était un type super sympathique, super marrant. Et qui piquait, vous vous rappelez l'histoire que j'ai racontée avec les couteaux, avec le chochette? Non, vous ne vous rappelez pas? Bon, je ne sais plus c'était dans quel numéro. Ouais, alors Vekit, si vous voulez ça aussi, je vais vous la raconter juste pour comprendre un petit peu c'est qui, Shmuel Munkes. Le Rav Shmuel Munkes, qu'est-ce qu'il fait? Il a son copain qui est très riche, qui a une très belle maison, des beaux tapis. Ouais. Il vient avec des bottes remplies de boue, remplies de réchef, remplies de, comment on dit ça en français, le réchef. Le fumier, ouais, rempli de fumier. Et il ouvre la porte de la maison de son copain. Et il commence comme ça à marcher sur les tapis. Paf, paf, paf. Et Baruch Hashem, bli ainara, ça coule bien de partout. Ça salit tout. Et Rav Pinchas, il n'était pas là. Il y a sa femme. Elle lui dit, oui, bonjour, Shmuel, qu'est-ce que tu veux? Il dit, bah, j'attends Pinchas. Il dit, bah, il arrive tout de suite. Attends-le dans le salon. Il s'assoit sur le canapé et hop, il met un pied en avant. Le deuxième pied sur l'autre et il s'allonge comme ça sur le salon. Ok. Rav Pinchas y rentre. La femme, elle osait rien dire. Rav Pinchas y rentre. Il voit sa maison, il voit sa baraque, il voit ses... Il voit maintenant son copain allongé sur le canapé avec le fumier de partout. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es fou. Il est où ton derech eretz? Tu rentres chez quelqu'un, enlève tes bottes. Pourquoi tu fais ça? Et là, Rav Shmuel, toujours il faisait des choses comme ça un peu choquantes pour réveiller les gens, il lui dit, quoi? Le Admour Hazaken, le Balatania, il a investi autant sur toi, ouais, pour que tu sois préoccupé par la gashmiut, que tu sois préoccupé par la matérialité de ce monde. Il a dit, tu sais quoi, je me barre de chez toi, j'ai pas envie de rester avec toi. Ouais. Il se lève et il part. Rav Pinchas, il a reçu comme une flèche dans son cœur. Il dit, bah, c'est vrai, finalement, le Admour Hazaken, il s'est investi sur moi pendant des années pour que je sois détaché, comme on voit dans le Tania, de la matière, des plaisirs de ce monde, verrouler. Et il dit, Mechila, Mechila, je t'en prie, reste. Il lui dit, est-ce que j'ai un tikkun? Est-ce que j'ai une réparation? Il lui a dit, ouais, t'as une réparation. Et tu vas prendre un bâton, comme ils jouent les enfants au cheval, et tu vas te balader dans tout le village. Maintenant, c'était un homme noble avec beaucoup d'argent, hein. Et tu vas jouer au cheval avec le bâton. Il a dit, ok. Et Rav Pinchas, il prend le bâton et il va comme ça se balader dans le village. Les gens, ils disaient, ça y est, Rav Pinchas, l'argent lui est monté à la tête, il est devenu complètement dingue. Hein, ça y est, on l'a perdu, ça y est, c'est foutu, Rhlet. Ouais. Et comme ça, il lui a donné son tikkun et Rav Shmuel, il a dit, c'est bon, tu peux t'arrêter à Kol Beseder. Maintenant, pourquoi il a voulu lui faire ça? Pour lui dire, Atkama Atashakua Betochanyanim, combien tu mets ta tête dedans? Vous savez, combien de fois ça nous arrive? C'est où qu'on voit le Mifran? Des fois, tu achètes une nouvelle paire de chaussures. Ouais. On ne dit pas qu'on ne doit pas faire attention. Des fois, tu achètes une paire de chaussures et d'un coup, tu marches dans la rue, hop, tu as touché un truc, une petite égratignure, une petite saleté, un petit truc. Et ça n'était pas bien. Tout de suite, tu cherches une lingette, tu essaies de nettoyer. J'ai quelqu'un, je connais quelqu'un qui m'a raconté, son frère, il a acheté une nouvelle Mercedes et il va le chercher. Un frère, il est plus ou moins religieux, enfin pratiquant, et un, il est très religieux. Et il vient chercher son frère qui est religieux pour lui montrer la voiture à côté d'une yeshiva et tout. Il dit, viens et tout, viens, je te fais un tour, viens, je te montre tout ça. Le frère qui est, ouais, il en a rien à cirer de la Mercedes. Il est avec son café. L'autre, il est angoissé. Attends, fais attention. Ouais. Et sans faire exprès, à un moment, il fait tomber son portable dans la voiture. Et je ne sais pas où il le fait tomber. Et l'autre, il pète un câble. Attends, regarde si tu m'as pas rayé la voiture, regarde si tu m'as pas rayé le tableau de bord, t'es un malade, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas attention. Il lui a dit, mais dis-moi, t'es complètement fou. Il lui dit, t'as mis autant d'argent et en plus maintenant tu t'angoisses. Et Bessofo Sheldavar, c'est Bidu Klanekuda qu'on est en train de voir. At Kama Tachaku a baisé. T'as acheté un nouveau téléphone. D'accord, tu dois faire attention, d'accord, tu lui mets une coque pour pas qu'il se casse, pour pas qu'il s'abîme. Vous savez, Ingvar, je raconte une anecdote de téléphone. J'avais acheté un nouveau téléphone, il était nickel, Baruch HaShem. En général, tfou, j'arrive à ne pas casser mes écrans. Ouais. Chose qui est pas mal dans notre génération, je ne suis pas un bon client pour les magasins de téléphone. Donc j'achète un téléphone, je mets la coque, je mets le truc, tout y... Maintenant, c'était un téléphone avec un écran curvé. D'accord? Donc, il n'y a pas de matbeka, il n'y a pas de protection qui fait le téléphone. Donc, c'est au milieu et sur les côtés, tu voyais un petit peu l'écran. Magnifique, ok? De toute façon, ça ne m'inquiète pas parce que je fais très attention. Et je pose mon téléphone sur le bar. Et Bli Aynara. Ouais. Je vois ma femme le déplacer pour nettoyer. Et d'un coup, je vois le saut vertigineux du téléphone qui tombe du bar. Clac, 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 clac. Et qui tape la chaise de bar sur, où il y a les pieds. Ouais, il tape la barre en fer. Bam, bam, il tombe par terre, tu vois. Et là, je suis en plein suspense, ouais. Parce que juste que vous comprenez, l'écran, c'était 2000 shekels. Ouais, c'était le prix quasiment du téléphone. Donc, il a même pas 24 heures. Ouais. Je me suis engagé sur 36 mois et maintenant, ça se trouve, l'écran, il va me coûter plus cher. Et je dis, enfin, mais attends, tu peux pas faire attention? Elle me dit, mais je sais pas, il m'a glissé des doigts. Il m'a... Bon, ok, je le prends. Pour moi, c'est au même niveau que Triatametim à ce moment-là. Ouais, je regarde l'écran et je suis content. Il n'y a rien. Ouais. Et d'un coup, je regarde. Et sur le côté, là, sur le millimètre où il n'y a pas de coque, je vois tout fissuré comme ça. Oh non, pas ça, tu vois. J'ouvre le téléphone et plus j'appuie sur l'écran et plus je vois les fissures qui sont en train de se diriger partout. Ouais, ça m'a fait la carte du monde dans le téléphone. Tu sais quoi, je commence à attraper un choc émotionnel. Ma femme me dit, mais c'est bon, il n'est pas cassé. Je lui dis, non, non, il n'est pas cassé. Ouais, je suis parti dans la terrasse. Il m'a fallu un quart d'heure. Un quart d'heure pour revenir à des notions divines. Ouais, à des notions divines. À Kolletova, à peut-être que je n'ai pas donné assez de maaser. Faire mon cheshbon nefesh. Tout ça, c'est que du matériel. Et de toute façon, le Admor HaZaken, il ne nous parle que de ça. C'était dur de redescendre. Tu cherches c'est qui le fautif, bah, ta femme qui a pas fait attention, l'écran, le type, il aurait pu te mettre peut-être une autre coque, rouler, hein?
Jamais je le mets sur le bar.
Ouais, non, j'ai plus racheté d'écran curvé en fait, en réalité. Et jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça de jeter dans une armoire. Et c'est Bidou Kanekouda. Combien on est chakoua? Des familles, on est chakoua, on est dedans, le nez dedans. Comme avec cette histoire-là de Rav Pinchas Redez, il marche dans un truc, il voit des taches sur son parterre, il est en train de... Bien sûr que, attention, on ne doit pas venir chez quelqu'un et lui salir sa maison, ouais. Mais Atkama Zenogealecha, jusqu'à combien ça te touche? Bimboa, on parle d'histoire. Il y avait à l'époque aussi des chassidim, un frère qui était riche et un frère qui était pauvre. Bon, ça arrive beaucoup, dans beaucoup de familles, il y en a un qui réussit, un qui réussit moins. Maintenant, ils n'étaient pas trop en contact. Mais il arrive au mariage de sa fille, et là, il n'a pas le choix de faire le pas, d'aller voir son frère et de lui demander la dot, de lui demander de l'argent pour pouvoir préparer le mariage. Et il arrive chez son frère, il est super heureux, ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. « Oh mon frère, comment tu vas? Comment vont les enfants? Comment va ta femme ?» Super, et il rentre à la maison et il lui dit « Voilà, regarde, ça c'est ma maison, je viens de finir de la construire. Tu vois, cette salle-là, c'est une salle d'attente quand il y a des invités, le temps qu'on prépare la table. Ça, c'est la salle à manger. Ça, c'est la cuisine aussi, une salle à part. » Ouais. Et il lui montre comme ça, il lui fait plein le tour de sa maison. Il y a des cheders de partout, ouais. il y a des pièces de partout. Ça, c'est pour les enfants, ça, c'est la salle de jeu, ça, c'est quand il y a des invités. Ça, c'est la chambre que pour les invités quand ils veulent dormir. Ils ont leur toilette et leur douche et leur relais. Et le type, le frère, il n'a rien à voir. C'est-à-dire, il est pauvre, il a rien. Et il fait le tour de la maison et l'autre, il est tout content. Et ça, c'est le dernier carrelage et ça, c'est un masgan. Et en plus, il y a un masgan que tu peux contrôler dans sa chambre. Ouais. Bon, c'est à l'époque des chassidim. Je rajoute un petit peu des détails pour qu'on comprenne avec nos notions d'aujourd'hui. Donc, le type, il s'ennuie. Au bout d'un quart d'heure que le frère, il fait le tour de la maison et du grenier et de tout ça, il lui dit, bon, écoute, je vais dire le Emmet. Ouais, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis venu juste pour te demander de l'argent parce que je marie ma fille. Ouais. Voilà, je te dis la vérité. C'est pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu pour visiter ta maison. Ouais, c'est pas... Ouais, la visite, elle était trop longue. Ouais. Et... Hein? Ouais, je suis métavers en plus. Ah ouais, je ne veux pas faire de la pub, après ils vont me dire que je fais des cours de trucs pour faire de la pub dans... Hein, je peux envoyer agent immobilier. Alors, Bekitsour, il lui montre toute la maison et le type, il lui dit, bon, donne-moi, s'il te plaît, si tu as la possibilité de m'aider, donne-moi, ou sinon je rentre. Et le type, il lui dit, ah, c'est pour ta fille, bon, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Mais attends, on n'a pas fini la visite. Ouais. Je te montre, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et il continue, et là, c'est le jardin. Et là, il le regarde, il lui dit, regarde. Pour ne pas être vulgaire, je vais te donner une notion et tu vas essayer de la comprendre tout seul. Il y a un animal, son plaisir, c'est d'avoir le nez dans la boue. Ouais. Sans mentionner de quel animal ça parle. Il dit à chaque fois qu'il met la tête dans la boue, il se sent bien. Mais il n'est pas bien pour une raison, c'est qu'il aimerait que tout le corps il soit dans la boue. Donc tant qu'il n'a que le nez dans la boue, il ne se sent pas encore assez bien, alors il essaie de rouler et de pénétrer encore plus dans la terre pour être complètement imbibé de toute cette boue-là. Il dit, tu me fais penser à ça, mon frère. Et là, le type, il s'est arrêté et il a compris le vrai Nyan. J'ai un frère qui est pas chouette. Alors, ok, Baruch Hashem, Dieu, il t'a donné, il te permet. On est dans une génération d'abondance, on est une génération de Shefa. Donc, il n'y a pas de problème d'en avoir, il n'y a pas de problème de l'utiliser à bon escient. C'est ce que la Torah nous demande, il n'y a pas de problème. Mais si ta tête, elle est chakoua dedans, t'es comme le cochon. T'as le nez dedans et t'essayes de t'enrouler encore plus dedans. Et après, ça te perturbe. Pourquoi? Parce que ça s'est abîmé, parce que ça s'est cassé, parce qu'il faut entretenir, parce qu'il faut acheter un nouveau, parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti. Ouais. Et en fin de compte, ta tête, elle est plus libre. Et quand ta tête, elle est plus libre, automatiquement, t'as plus le temps pour faire la Torah et les Mitzvot. Donc, juste pour revenir au yin de la nefesh ha-sichlit. La nefesh ha-sichlit, c'est elle. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pour vous dire le fossé qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. Quelle discussion tu veux qu'ils ont ensemble? C'est pas possible. Ça va être un monologue. Là, la nefesh ha-sichlit, elle vient, qui est proche de la nefesh ha-elokit, mais qui a aussi le même endroit que la Nefesh Abahamit, elle peut commencer à négocier et à parler pour convaincre la Nefesh Abahamit que le Emet et que le vrai plaisir, c'est Dafka dans la Torah et dans la Kedusha. Derech Agav, vous savez que le Rambam, il dit qu'il y a une mitzvah d'aller influencer les Sheva Mitzvot Bnei Noach, d'aller influencer aussi les nations du monde. Pourquoi? Parce que même dans les nations du monde, on va retrouver ce côté Nefesh Sikhlit et Nefesh Abahamit. D'accord? L'âme intellectuelle et l'âme animale. Ce qui va manquer, par contre, c'est l'âme divine, ce qui s'appelle la Nefesh Elokit. Et donc, elle a personne réellement qui va venir l'influencer pour lui dire que toutes les futilités de ce monde et tous les plaisirs de ce monde, c'est des bêtises. Non. Ouais, pour ça que tu vas voir que le monde, il est chaque fois que dans ça. Tu ouvres les vidéos aujourd'hui dans n'importe quelle plateforme, c'est que les plaisirs de ce monde. C'est les belles vacances, c'est les belles voitures, c'est les bons repas, les bons plats, les bons cuistots, les bons... Ça parle que de ça en réalité. Parce que c'est l'endroit où ils se retrouvent. Ils disent pourquoi en réalité le Rambam il vient, il ramène le Inyan de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Parce que étant donné que toi tu as une Nefesh Elokit, de la même manière que chez toi elle influence la Nefesh Asichlit, qui va influencer la Nefesh Abahamit, c'est exactement le rôle aussi qu'on a reçu pour influencer le monde. Étant donné que tu as une Nefesh Elokit, c'est toi qui peux venir maintenant expliquer à la Nefesh Asichlit des Umot HaOlam, des nations du monde, pour qu'eux-mêmes influencent leur Nefesh Abahamit. Pour qu'ils respectent, pour qu'ils se raffinent et pour qu'ils fassent Sheva Mitzvot Bnei Noach. Ad Kedekar, que le Rabbi l'a dit, que si on fait ça, c'est eux qui vont nous demander et réclamer qu'on construise le troisième Beth Hamikdash. C'est eux à la fin. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un mode combat. Mais en réalité, on a une responsabilité d'influencer les nations du monde. Ad Kedekar, que c'est eux qui vont nous pousser à « Vas-y, c'est à vous. » Hein? Il y a beaucoup de travail. Il y a une machlaka, il y a une unité chez Chabad qui s'occupe de ça. Bon, c'est pas assez, ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais il y a une unité d'élite qui s'occupe des Sheva Mitzvot Bnei Noach, qui rentrent dans des kfars et tout ça. Dommage, ils ont écrit en arabe, ils ont fait des fascicules, ils rentrent là-bas, ils s'assoient avec eux, ils font des Dvar Torah et tout. Ouais.
En Afrique. Le Chabad, ils sont très proches de la population, ils rentrent dans le...
Ouais, exactement. Ouais, ça fait partie des Nian. Et tu te rends compte que, Bémet, que quand tu es dans ce mode-là d'influencer dans le spirituel, ouais, et ben tu vois qu'ils ont une ouverture, une demande et un besoin tout de suite. Moi, je connais quelqu'un, il fait des cours que pour ce cas-là. Et il m'a dit, c'est extraordinaire. Il m'a dit, c'est eux qui te courent derrière pour faire le cours, pour faire une conférence en plus, pour rouler. Ils sont assoiffés. Le monde, il est assoiffé de ça, de cette spiritualité. Donc, tout ça pour dire quoi? Qu'en réalité, maintenant, on comprend qu'on a la Nefesh à Sikhlit qui va venir nous influencer. Donc, pourquoi maintenant on parle de tout ça? Pour nous rappeler une chose qui est essentielle. Vous rappelez le premier chapitre du Tanya, on avait posé une question. La question, elle était... Mashbim oto tiye tzadik ve'al tiye racha. On le fait jurer avant qu'il descende dans le monde, soit un tzadik et ne soit pas un racha. Et là, on va commencer le Admor Zaken jusqu'au Perek Yud Dalet, jusqu'au Perek 14. Il va commencer à nous expliquer la réponse de la question du premier chapitre. Si tu me dis soit tzadik, pourquoi tu me dis ne sois pas racha? C'est une redondance. Si tu es tzadik, t'es tzadik. Soit tzadik, ne sois pas racha. Parce que comme on parle du Benoni... Et que le Benoni à l'extérieur, il est comme le tzadik. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il ne faute pas. Donc extérieurement parlant, il est comme le tzadik. Mais qu'à l'intérieur, il est comme le racha. Pourquoi il est comme le racha? Parce qu'on a dit qu'il n'est pas arrivé au niveau, comme on est en train de dire, d'avoir chassé le mal qui est à l'intérieur de lui. Donc il combat toujours un yetzerara à l'intérieur de lui. Donc à l'intérieur, il ressemble à un racha. Et à l'extérieur, il ressemble à un tzadik. Donc c'est pour ça qu'on lui a dit au début, « Mashbimoto tiye tzadik, ve'al tiye racha. » En fait, on parlait au Benoni. Oui, les gens vont te dire que tu es un tzadik. Oui, le monde va penser que tu es tzadik, mais ne pense pas à ça. Pourquoi? Parce que tu peux tomber si tu penses ça. Ouais. Rappelle-toi qu'à l'intérieur, tu es comme un racha. Donc maintenant, ton combat, il va être aussi sur alti et racha, de pouvoir les va'er, le racha bekir becha. Et derecha, vous savez qu'il y a sur Avraham Avinu, on dit « Umatzata et levavo ne'eman lefanecha ». Ouais. Il y a un discours chassidique du Rabbi Arayatz, exceptionnel. Il dit « Umatzata et levavo ne'eman lefanecha ». C'est quoi hein? Tu as trouvé son cœur attaché à toi et fidèle à toi. Pourquoi? On a un doute qu'Avraham, il est fidèle ou pas? Et là, il y a une notion chassidique extraordinaire. Le Rabbi Rayatz, il a dit comme ça que, en fait, Avraham Avinu, il s'est battu contre son Yetzer Hara. On l'a bien vu. À l'âge de 3 ans, avec les idoles, avec le, dans le monde dans lequel il a grandi, il a dû faire face à des nisyonotes pour prouver à Dieu qu'il aime Dieu, qu'il est attaché à Dieu, qu'il met de côté tout le mauvais côté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, au bout d'un moment, il va lui dire, ça y est, t'es dans mon clan. Ouais, maintenant, comme t'es dans mon clan, tu vas faire une mitzvah qui va te rajouter le « et ». Tu t'appelles plus Avraham, tu t'appelles Avraham. Ouais. Il dit, pourquoi Matzatet Levavo Neeman Lefanecha? Parce que Avraham, après qu'il ait reçu le « et », il est resté fidèle à Dieu, même comme avant qu'il ait reçu le « et ». Tu dis, bah, ok, bah, justement, Kalva Chomer. S'il était fidèle avant le « et », il sera fidèle après qu'il ait reçu le « et ». Maintenant, il a une influence directement d'Akadosh Baruch Hu, d'une manière dévoilée, comme on a vu Vaïra Elav. Dieu, il s'est dévoilé à lui. Alors, c'est quoi le chidouche? Il dit, tout le chidouche, il est là. C'est que des fois, quand un homme, il augmente spirituellement parlant, ouais, et il arrive à des perceptions divines qui sont hautes, il peut oublier d'être fidèle. Pourquoi? Parce que tout de suite, la gava, elle se place. Tout de suite, l'orgueil se place. Et tu peux oublier pour qui tu travailles. Ouais, d'un coup, on te fait du kavod, d'un coup, on te donne du respect. D'un coup, les gens, ils sont derrière toi. Et là, tu dis, ah, Avraham Nishar, comme il y a écrit, Afar va Efer. Avraham, il est resté pareil comme à l'époque avant qu'il ait le « et » complètement annulé à Kadosh Baruch Hu. Donc, tu vois que même les tzadikim, ils avaient un gros travail à l'intérieur d'eux. Il dit « Ve'en k'moshe katuv ubi'arta ara mikirbecha, ve'en ara ne'efar letov mamash, nikra tzadik she'eno gamur. » Donc, tant que tu te bats contre le mal, et il y a écrit « ubi'arta ara mikirbecha », c'est quoi « ubi'arta ara mikirbecha » ? Tu brûleras le mal qui attend toi. Ouais, c'est quoi « tu brûleras le mal qui attend toi » ? C'est Chas v'Shalom quand il y avait des juifs qui étaient mal jugés par rapport à des sanctions, par rapport à des bet din. Alors que toi, ou biarta aram kirbecha, bon, bah, il y a des sentences pour enlever, éradiquer le problème qu'il y avait, ouais, dans le peuple. Comme on a vu dans toute la Torah, des périodes et des épisodes où à Kadosh Baruch Hu Kivirchol, il y a eu des sentences pour éliminer ceux qui faisaient des problèmes, Chas v'Shalom. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, la Nekuda, elle est quoi? Il te dit, eh ben, en fait, de manière spirituelle, ça se passe à l'intérieur de nous chaque jour. Toi aussi, tu as le devoir de la Torah, ou biar ta'ara mikirbecha, de faire brûler le mal qui est à l'intérieur de toi. Et pourtant, même quand tu fais ça, ça ne veut pas dire que le mal va devenir bien. Tu as juste chassé le mal. Et là, quand tu arrives à cette dargala, tu es appelé nikra tzadik she'eno gamur. Tu es appelé tzadik qui n'est pas encore complet, qui n'est pas encore gamur. Pourquoi? Parce que c'est comme quand je mets une goutte de lait dans une marmite, même si c'est une marmite de 200 litres et je mets une goutte de lait, alors on sait que ça va être annulé, d'accord ? On peut quand même le consommer. Bien sûr, si ça a été fait par inadvertance, pas fait exprès. Mais Bessofo Sheldavar, au microscope, ouais, si je regarde cette goutte de lait, elle existe toujours. Alors oui, elle a été mélangée, mais les composants, ils sont toujours à l'intérieur. C'est exactement le machal avec le tzadik chez Nogamo. C'est-à-dire que le mal est complètement annulé dans le tov, ouais, mais Kivirchol, il y a toujours quelque chose. Son travail, alors, ça ne veut pas dire qu'un jour il peut se relever et rebattre le tzadik, mais c'est toujours Nimtza. Machéen, Ken, quand on parle du tzadik Gamour, que même ça, ça n'existe plus. Okay, comme David Amelach, il a dit, Velibi, Halal, Bekirbi. Ouais, son cœur, il est vide. Complètement, on avait dit que par les jeunes, il a réussi à tuer complètement les ta'avot, les plaisirs de ce monde, et le yetzer hara, jusqu'au point où il a dit que donc il était libi halal bekirbi. Da'inu shesh bo adain me'at miser rab bechalal asmali, et là, shekafuf ou batel, latov mihamat miyuto. Juste, j'avais promis une petite histoire là, de Rav Shmuel Mondkès. Oui.
Là, il parle dans le début du période, il parle de convertir le mal en bien.
Ouais. On va parler, là, on parle du niveau du tzaddik.
Tovlo,
il va prendre, en fait, il va prendre ce qu'on appelle le mal. Ce n'est pas réellement du mal, parce que la nefesh abamit, il faut savoir qu'elle s'appelle aussi la nefesh achiyunit, l'âme vitale, ouais, celle qui te fait vivre. Donc, en fait, c'est quoi l'âme vitale? Ce n'est pas forcément que du mal. C'est de prendre, comme on avait dit, ce moteur-là, la mettre de ton côté, pour justement que tous tes retsonot, Bechol Levavecha, on avait parlé de ça, tous tes retsonot, ils convergent que vers la Gdusha.
Donc ça, c'est tzadik gamour. Il prend la nefesh abemit, ouais, et il la convertit en tov.
Nachon.
Mais on dit que David Amelach, il a tué C'est quoi
Non, mais libir halal.
C'est convertir ou tuer.
Non, non. Alors c'est exactement là que le Admor Hazaken veut qu'on comprenne les notions. Comme j'avais parlé aussi du Admor Hazaken avec la boîte de tabac, vous vous rappelez, la Nekuda, elle est quoi? C'est quoi tuer? En fait, ce n'est pas tuer. Là, il va parler de les Vatelota. Ouais, les Vatelota, c'est qu'il ne veut pas les tuer. C'est annuler son Ratson. Comme on avait vu le Perek d'avant, qu'elle a des Ratson. Exactement, c'est la dompter en réalité. Velibir Halal Bekirbi, en réalité, c'est qu'il a pris tout le mal. En fait, parce que la Nefesh Hayunit, elle est toujours là. Pourquoi elle est toujours là? La preuve, c'est que tu vis. C'est pour ça qu'elle s'appelle aussi l'âme vitale. Sinon, s'il l'avait tué, il serait mort. D'accord? Donc, il la prend et il la met de son côté pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc, en fait, maintenant, il a deux moteurs. Il a la tête et le cœur qui travaillent que pour Kadosh Baruch Hu. Et donc, là, il peut arriver plus loin. Ce n'est pas le moussak de tuer. Sinon, il y aurait écrit Ratzachota, Aragota. Ouais. OK. Magro qui a écrit Arago Betanit. Mais encore une fois, c'est encore une perception de tzadikim. Ça, on ne sait pas, ça veut dire quoi réellement, tuer son Yetzerara. Mais le but, c'est de le prendre de ton côté. Le nefesh, le tzadik sheino gamour, la différence, c'est qu'il ne va pas être moes bera, on a dit. C'est-à-dire que pareil, il a fait le même travail, sauf qu'il ne va pas être dégoûté du mal. Le tzadik gamour, comment on va voir que c'est un tzadik gamour? C'est qu'il est dégoûté. Je vous avais raconté l'histoire avec le Magid de Meserich, qui avait vu une femme pas. Ça, il est arrivé à un matzav de dégoût de tout ce qui est contradictoire à la Gdusha. Maintenant, juste pour revenir, je vous avais promis l'histoire de Rav Shmuel Mundkes avec les couteaux. Ouais. Donc, l'histoire de Rav Shmuel Mundkes, pour qu'on comprenne pourquoi il a mis ses jambes aussi sur le canapé de son ami. Une fois, il était dans une ville, et à l'époque, c'était à la mode, et aujourd'hui aussi, des fois, on retrouve ça. Il y avait des rabbanim qui passaient dans des villages de paysans, des villages de juifs pshutim. D'ailleurs, c'est sur ça que la chassidoute est venue, pas se battre, mais est venue influencer. Donc, il y avait des rabbanim qui venaient et tout leur kiff, c'était de faire des discours qui font peur. Ouais. Ouais. Donc, ils venaient et ils tabassaient le Kaal en leur disant que c'est des abrutis, des bourres et des améharets. Ils comprennent rien. Et que si, et que ça, roulez. Et que vous allez venir au Beidin Shelmala, le Beidin en haut. Et qu'est-ce que vous allez raconter? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous ne connaissez même pas une Gemara, Talmud Obeyado, ouais. Ils étaient très, très, très durs. C'était une population très pauvre qui travaillait très durement en Russie, qui était en plus assiégée par les pogroms. Donc, en plus de ça, ils venaient leur rajouter que côté matériel, leur vie, elle est bidon, mais leur côté spirituel aussi, des bidons. En fait, leur vie, elle est bidon et ça a emmené une grande dépression et beaucoup de tristesse. D'où pourquoi le Baal Shem Tov, il est venu. Israël, réveiller le cœur des bénis Israël avec l'amour, la simcha verroulée. Et Rav Shmuel Mundkes, il se retrouve dans la synagogue et il écoute le discours. Pas mal. Lui, c'est un chassid du Admor Hazaken, donc il ne faut pas faire du mal au Bnei Israël. Et il voit les gens qui sont choqués, qui ne sont pas bien, qui sont en dépression. Il le suit jusqu'à son hôtel. Okay, il le suit, il tape à la porte. Oui, bonjour. C'est vous le Rav qui avait fait le discours juste avant? Oui, je pourrais vous parler, j'ai quelques questions sur votre dracha. Oui, il n'y a pas de problème, mon fils rentre. Ouais. Il s'assoit, et d'un coup, le Rav Shmuel Mundkes, il sort deux couteaux de boucher, et il commence à aiguiser comme ça. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, bah écoute, j'ai réfléchi, dans notre village, on n'a pas de kivrei tzadikim, et vu comment j'ai beaucoup aimé votre discours et comment vous parlez, vous êtes sûr de vous et que vu ce que vous prétendez au Kaal, c'est sûr que vous êtes à un niveau assez, assez élevé. Donc je me suis dit, je vais vous tuer, comme ça on vous enterre ici. On a Bezrat Hashem, sauf Kivrei Tzadikim. Les gens, ils voyagent des kilomètres pour trouver des Tzadikim et prier sur leur tombeau. Au moins, on aura dans notre ville. Et le type dit, attends. Ouais. Je suis pas si tzadik que ça, ouais. Il lui dit, ah bon, pourquoi? Alors l'autre, il lui dit, bah écoute, des fois ça m'arrive le matin, j'ai lié de serrara, je me lève pas à l'heure à la tfila, j'arrive en retard. Il s'arrête, il dit, non, ça c'est une petite avéra ça. Ouais, il dit, t'es quand même tzadik. Il dit, non, attends, deux secondes, tu sais, des fois, ça m'arrive de flancher un peu de la chonara par-ci, par-là. Il s'arrête, il dit, ah, tout le monde, non, mais vous êtes quand même tzadik. Ouais, et il continue, et il se rapproche de lui. Et là, d'un coup, le Rav, il est en panique, il est complètement dingue, le mec. Il vient, il lui balance Wahad Avera, ouais, une belle Avera qu'il a fait. Il le regarde, lui dit, écoute-moi bien, si tu bouges pas de ce village dans les minutes à venir, je vais faire vraiment bémettre de toi un kivret tzadikim. Ouais, et le type, il a pris sa valise, et il s'est barré. Il avait la tournée pour faire toutes les synagogues. Il n'a pas fini la tournée et il est rentré chez lui. Ouais. Et ça, c'est l'histoire de Rav Shmuel Mundkes. Pour vous dire, il faisait toutes sortes de maasim qui étaient complètement marrants à la fois, mais étranges, pour réveiller les gens. Et c'était ça pourquoi je vous ai raconté tout à l'heure par rapport à Rav Shmuel Mundkes, cette façon-là de mettre ses affaires chez son copain et lui salir tout, juste pour lui faire passer un messer. At kama, jusqu'à où ton nez, il est enfui dans les ch'touyot. Donc on doit se réveiller, on doit sortir nos têtes des ch'touyot. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir, mais ça ne doit pas nous préoccuper. Ça ne doit pas être notre but dans notre vie. Et si on est comme ça, on aura de la place libre dans notre cerveau pour pouvoir avancer vers Akadosh Baruch Hu. Hein ?